Donc, je m'appelle Julie Marchais, je suis étudiante à l'INSEAC du CNAM en culture et communication de ma première année de master. J'ai choisi de faire un service civique en médiation culturelle et numérique dans une microfolie pour mon stage de master 1. Une microfolie, c'est une structure culturelle qui utilise le numérique pour l'accessibilité à la culture. Donc, on a plusieurs choses. Premièrement, les conférences d'histoire de l'art qui utilisent des tablettes et un vidéoprojecteur pour présenter des thématiques différentes. Enfin, en tout cas, dans ma microfolie, chaque semaine, on avait une thématique différente d'histoire de l'art. Par exemple, récupération dans l'art ou l'Égypte antique, la mode dans l'histoire de l'art. Nous, on utilise comme support le numérique. C'est vraiment un outil de médiation pour nous. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un atelier qui utilise des logiciels pour faire des créations. Donc ça peut être par exemple du flocage, des badges ou encore de la construction avec imprimante 3D.
Et toi, donc, tu utilisais le numérique pour réaliser des médiations?
C'est des médiations d'histoire de l'art, donc vraiment le but c'était aussi de présenter en à peu près, en fonction des groupes, 45 minutes à 1h15, 2h, un sujet précis en histoire de l'art. Donc c'est au médiateur de créer sa playlist, qu'est-ce qu'il veut présenter, qu'est-ce qu'il veut dire. L'outil numérique pour le coup, là ce qui nous sert c'est que on fonctionne avec des partenariats avec les musées et ces partenariats nous permettent d'avoir accès aux œuvres en très bonne qualité et de pouvoir zoomer sur un détail en particulier, de pouvoir, enfin chacun peut vraiment manipuler l'œuvre comme il le souhaite, d'où l'intérêt de que chaque visiteur ait sa tablette pour pouvoir lire lui-même les informations qu'on met à disposition directement sur les tablettes, pour pouvoir zoomer sur un détail qui l'intéresse. Nous, on peut aussi poser des questions sur des choses qu'on pourrait pas forcément voir sur l'œuvre en taille réelle si on était tous devant. Là, ça permet vraiment aussi de pouvoir vraiment travailler un petit peu plus en profondeur sur une œuvre sur une partie. C'est pas vraiment comme une visite au musée parce que généralement on a entre une dizaine et une quinzaine d'œuvres, donc on peut vraiment travailler plus ou moins longtemps sur chacune et on n'est pas forcément tenté de voir le plus d'œuvres possibles. Le but, c'est vraiment aussi, souvent on dit, moi j'ai fait une médiation par exemple sur le cubisme. Si les enfants à qui j'ai fait des médiations, ils comprennent que le cubisme, ce que c'est, savoir reconnaître une œuvre cubiste ou savoir que Picasso est un des fondateurs du cubisme, c'est déjà bien. Et c'est nous, c'est ce qui nous permet de dire qu'on a fait une médiation qui a intéressé et qui a servi à développer aussi des connaissances en art chez les personnes auprès de qui on fait des médiations.
Est-ce que tu as les moyens, ça, d'évaluer si ça a permis? Est-ce que les enfants, quand ils retournent, enfin, les autres personnes à qui tu as fait la médiation, quand ils retournent dans un musée réel, sont capables de reconnaître les œuvres cubiques, par exemple?
Alors pour le coup, c'est une question que moi je me suis posée aussi dans le cadre de mes recherches et poser la question à vos animateurs. Souvent, nous, on a reçu des publics d'associations et dont certains qui préparaient la visite au musée avec une séance à la microfolie. Et moi, j'avais fait la préparation d'une visite au Centre Pompidou et j'avais demandé à l'accompagnatrice la semaine suivante. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont reconnu? Et c'est quelque chose. En tout cas, ce groupe-là a été particulièrement intéressé par l'histoire de l'art. Et c'est vrai que si je remonte une œuvre que j'ai déjà montrée, même si c'était il y a 2-3 mois. On me dit, ah si, si, celle-ci, on l'a déjà vue, ou on l'a vue en vrai. C'est quelque chose qui revenait quand même pas mal. Mais toutes les médiations n'ont pas forcément vocation à finir avec une visite d'un musée. Parce que moi, pour le coup, j'étais dans une microfolie en région parisienne, donc les associations pouvaient plus facilement, on prend un ticket de RER pour tout le monde et on va tous au musée. Mais il faut accompagner. Les publics de Villeneuve-Saint-Georges n'allaient pas forcément de même dans les grands musées parisiens. En tout cas, on a fait aussi des médiations sur des œuvres qui étaient à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que je construis différemment ma médiation s'il y a une visite réelle dans le musée suite à ma médiation ou non.
Du coup, le support numérique, il est forcément accompagné d'une médiation ou des fois c'est sous forme libre?
Alors, dans les microfolies, on peut faire les deux. C'est un choix de la structure de proposer ou pas parcours libre ou le parcours médiation. Dans ma microfolie à Villeneuve-Saint-Georges, on a essayé de mettre en libre service les tablettes et les parcours qui sont déjà tout faits par la Villette. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas sur nos publics. On a eu personne qui nous a demandé particulièrement. Nous, on aime bien la médiation aussi parce que déjà, ce qui est aussi inhérent au numérique, c'est qu'il faut savoir utiliser. Si on arrive devant une application qu'on ne connaît pas, on peut toucher à tout, mais le but, c'est vraiment de se concentrer sur le contenu. Donc avoir un accompagnement, c'est intéressant sur ce point-là. Et aussi, j'apporte des précisions sur, par exemple, si on parle dans... Il y a souvent un petit texte de présentation, on parle du siècle des Lumières. Moi, je suis aussi là pour expliquer c'est quoi le siècle des Lumières, c'est qui, de savoir qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Parce que sinon, on voit un défilement d'œuvres, mais c'est pas toujours évident de faire le lien entre telle ou telle œuvre, tel ou tel mouvement. Donc les médiateurs sont là pour ça. Et nous, on a constaté qu'il y avait quand même, d'une fois sur l'autre, on se souvenait de ce qu'on avait dit. Parce que c'est aussi un prétexte à débat, à discussion, sur qu'est-ce que ça leur inspire, en fait, de voir ces œuvres-là. Et c'est pas forcément le même rapport qu'on a tout seul devant sa tablette, à juste regarder ses œuvres.
Et d'ailleurs, par rapport aux cibles de ces dispositifs, est-ce qu'il y en avait en particulier? Et si oui, est-ce que... c'était vraiment les réels utilisateurs.
Les cibles, c'est-à-dire nos publics cibles. Eh bien, moi, je parle pour les Microfolies, c'est très différent en fonction de là où elle est implantée. Moi, je peux parler pour la Microfolie de Villeneuve-Saint-Georges, qui est implantée dans la ville réputée la plus pauvre du Val-de-Marne, avec la moitié de la ville qui est en zone prioritaire, où l'accès à la culture est assez compliqué. Rien que pousser la porte de la Microfolie pour demander des informations, c'est pas toujours évident. Donc nous, on travaille beaucoup avec des associations qui nous emmènent des groupes. Généralement, on a plutôt des groupes d'enfants. Public adolescent, c'est plus compliqué parce que souvent, il faudrait qu'ils viennent par eux-mêmes. On a encore du mal à mettre en place des actions pour qu'ils vivent. Ils viennent. Mais avec les associations, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un suivi sur l'année, c'est pas juste on fait une médiation et après on les laisse gérer. Il y a des associations qui ont un créneau soit tous les mois, soit toutes les semaines. Et donc on revoit aussi les mêmes têtes chaque semaine. Et ça permet aussi, le fait de créer un lien avec certains enfants, c'est que aussi ils sont plus intéressés parce que ils disent c'est vrai que tu nous as montré telle chose la semaine dernière. Dans le cadre des Microfolies, moi je sais à l'avance quel public je reçois, donc c'est à moi de m'adapter à mon public. Je vais faire surtout eu des enfants, c'est pour ça que je parle beaucoup d'eux, mais j'ai aussi eu un public de personnes qui apprenaient le français, d'adultes. Dans ce cas-là, j'avais plutôt tendance à utiliser du vocabulaire simple, mais à quand même garder beaucoup d'informations, et ils m'ont posé beaucoup de questions, et j'avais plus à faire un public adulte. Donc là, c'était plus... Enfin, on adapte son discours aux personnes qu'on a en face de soi, et j'ai eu aussi des publics d'enfants beaucoup plus petits qui avaient la moyenne d'âge, c'était autour de 8-10 ans généralement. J'ai eu des publics qui avaient plus 5-6 ans. Là où il faut raccourcir la médiation, il faut vraiment rapporter aussi la médiation à l'expérience de l'enfant pour qu'il s'intéresse un peu plus à ce qu'on dit, parce que c'est parfois compliqué de garder l'attention des 5-6 ans pendant une heure. Donc on va raccourcir la médiation.
Tout à l'heure, tu nous parlais des formes libres en lien avec le numérique. Et tu disais que ça n'avait pas trop marché, même si vous aviez tenté. Est-ce que vous avez réussi à observer pourquoi? Parce que tu dis, on ne nous l'a pas trop demandé. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infos sur le dispositif ou que ce n'était pas les bons publics?
Alors, déjà peut-être que j'ai mal expliqué ce qu'était la forme libre. La forme libre d'une médiation Microfolie, c'est qu'on peut nous demander de... prendre une tablette en tant que public individuel et on va avoir une sorte de diaporama d'œuvres. Et s'il y a une œuvre qui nous intéresse, on peut s'arrêter dessus et regarder quelles infos on a dessus dans notre base de données. Par exemple, on a vraiment les basiques, la dimension de l'œuvre, qui l'a créée, les matériaux. Et on a aussi souvent un petit texte de présentation sur, ça peut être le contexte, ça peut être une partie de la biographie de l'auteur qui a un intérêt pour cette œuvre-là. Voilà, c'est des petits textes. Au final, ça présente très brièvement les œuvres. Ça sert plus souvent, en tout cas dans notre cas, ça servait plus aux médiateurs que c'était pas réellement lu par les publics. Hein. Nous, pour les médiations, on a des horaires précises. Les associations, on sait qu'elles arrivent à 14h avec un certain nombre de personnes. C'est des publics qui ne reviennent pas toujours en famille. On en a certains qui vont venir une fois avec l'association, puis qui vont revenir le samedi, puisque le samedi, on fait des conférences pour tout public. Donc, toutes les familles, tout le monde peut venir. Et la semaine, on fait plus avec des rendez-vous. Donc, chacun peut choisir son thème. Ou nous, on demande si, si les thèmes qu'on a, ça intéresse nos publics. Pourquoi la forme libre, elle marche pas ? Parce que, comme je disais, nos publics, ils viennent parce qu'ils sont accompagnés. Et c'est une structure qui est très jeune. Elle est ouverte depuis seulement 2 ans. On ne va pas avoir beaucoup de personnes qui vont venir pour en connaissant déjà le dispositif. Donc nous, on va expliquer. Mais on a souvent soit des publics qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, soit des publics qui ne sont pas à l'aise avec le monde de l'art. Dans ces deux cas-là, se retrouver devant un diaporama d'œuvres tout seul et à essayer de lire et de comprendre les petits textes qui sont mis à disposition, pas forcément la forme de la médiation la plus pertinente. Ce qui est intéressant dans la médiation avec un petit groupe, c'est qu'on peut échanger, discuter. Disons qu'il y a aussi une partie sur l'acquisition de connaissances vraiment sur l'art, les œuvres d'art, et aussi une question de... Moi, je demandais aussi beaucoup la sensibilité de chacun. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est aussi essayer de s'exprimer face à une œuvre d'art.
Du coup, tu viens un peu d'en parler, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport aux freins et aux atouts concernant vraiment la technologie immersive?
Le premier atout que moi je vois, c'est que le numérique, on a juste besoin des outils et d'une connexion Internet, et on peut faire ça partout. C'est le but aussi des microfolies, c'est de rendre l'art accessible, même dans des endroits où il n'est pas toujours, pas très bien représenté. À Villeneuve-Saint-Georges, il y a quand même du patrimoine, il y a quand même des choses qui sont faites. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de musée ou d'œuvres d'art avec une médiation autour. Malgré la proximité avec Paris, les Villeneuvois, ils n'y vont pas. Donc, ce qui est intéressant dans là où on a implanté cette microfolie, c'est de donner c'est aussi de donner envie. Donc, un des avantages, c'est l'accessibilité, la présence de l'art sur le territoire et dans le local, enfin sur le territoire proche des habitants en fait, qui va aussi leur permettre de se dire que ça les intéresse ou pas, hein, ça dépend, on touche pas tout le monde, mais d'être plus à l'aise, de rentrer aussi dans un musée tout seul ou en famille, de rendre aussi les publics plus autonomes face à leur pratique muséale. Pour ce qui est des freins, je dirais que un des premiers freins, c'est que le numérique, c'est pas l'œuvre réelle. Et on n'a pas forcément la même sensibilité, la même chose qui se passe entre l'œuvre et le public dans le numérique et si on voit l'œuvre réellement. Mais là, on est plus dans un but de faire découvrir, d'éducation aussi à l'art, que de développer, la sensibilité propre de chacun à l'art, où ça, on laisse plutôt ça au public à découvrir eux-mêmes. C'est pas forcément le but de la structure en soi.
Est-ce que tu penses que l'outil numérique est un bon outil de médiation pour l'EAC ?
Le numérique en tant qu'outil vraiment pour faire de l'EAC, je ne l'ai pas forcément formulé comme ça. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que le numérique, c'est plus un outil, un support, mais que ça ne se suffit pas en soi. Et que les dispositifs numériques doivent être accompagnés par... c'est le rôle des médiateurs. Justement, moi, c'était parmi mes questions principales dans mes recherches l'année dernière. Et j'en suis venue à la conclusion que mettre des publics face au numérique, mais sans accompagnement, ça marche pas. C'est un peu ce que je décrivais avec la forme libre de la microfolie. C'est que si on n'a pas première expérience de... il y a la barrière... vraiment purement matériel, hein. Le numérique, c'est pas accessible à tout le monde, puisque tout le monde sait pas utiliser une tablette, hein. Et moi, avant chaque médiation, je réexplique faut appuyer sur tel bouton si on veut zoomer sur l'œuvre, il faut faire ceci si on veut utiliser la tablette correctement, n'hésitez pas à toucher, parce qu'il y a des gens qui sont intimidés aussi par l'outil numérique. Et aussi, si on se retrouve face à des textes, des fois on a aussi des soucis, par exemple une personne qui parle pas bien français ou un enfant qui apprend encore à lire, c'est compliqué pour lui de lire la médiation qu'on fait directement par l'outil numérique. Donc dans ce cas-là, il faudrait avoir des dispositifs qui sont adaptés à chaque public, ce qui est difficile parce que déjà le dispositif Microfolie avec l'application, le site internet, une base de données énorme, c'est déjà beaucoup de travail. Si on devait faire un dispositif pour chaque type de public, on verrait pas le début des Microfolies avant dans 30 ans quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que les médiateurs et les médiatrices sont là pour accompagner les publics, et sans ça, le numérique, je pense que ça marcherait pas. Et ça permet peut-être, le numérique, de commencer à autonomiser les publics dans leurs pratiques, mais que c'est pas... Disons que c'est plus... Je vois plus les dispositifs numériques comme faisant partie du chemin, mais sont pas une fin en soi de... Enfin, c'est une pratique culturelle, c'est certain, mais que c'est complémentaire à beaucoup d'autres choses.